Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui, c'est Leïla Bouerafa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous enseignez le français dans une association qui accueille les jeunes réfugiés. Vous êtes écrivaine ?
Oui, écrivaine, c'est bien.
Ça vous plaît ?
Oui, ça me plaît. Ou auteur avec un nœud, c'est bien aussi.
Bien. Votre premier roman vient de sortir, ça s'appelle La Dédicace aux éditions Alary. Un premier roman, c'est une formalité ?
Le premier roman en soi, non, mais c'est vrai qu'après, il y a certaines formalités. Enfin, l'une des premières questions que m'a posé mon éditeur, c'était mon numéro de sécurité sociale pour établir le contrat. Donc, il y a des formalités, mais heureusement, c'est pas que ça.
C'est vrai, il y a beaucoup de formalités, finalement, pour écrire un premier livre.
Hein.
Ça n'a l'air de rien. Comment est-ce que vous avez procédé ? Vous avez envoyé un manuscrit quelque part ? Vous connaissiez quelqu'un ?
Déjà, quand j'ai commencé à écrire la dédicace, je ne pensais pas du tout à la publication. Parce que c'est tellement un travail qui demande beaucoup d'heures de travail, d'énergie, qu'on ne peut pas vraiment penser à la publication quand on écrit. Mais bien sûr, quand on s'approche de la fin, on y pense. Et j'ai fait comme tout premier écrivain qui n'a pas de réseau, qui ne sait pas comment s'y prendre. J'ai envoyé des mails et des courriers. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une réponse.
Ouais. Vous pensiez en faire quoi de votre livre ?
Au début, c'était plus un défi que je me lançais à moi-même, dans le sens que moi, je lis énormément, et quand on lit beaucoup, je pense qu'à un moment, on se pose la question de « et si moi j'écrivais, qu'est-ce que j'écrirais ?» Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai voulu me lancer un défi, et la dédicace, c'est la première histoire que je commence et que je termine, parce que j'aime beaucoup commencer les choses sans les finir, et la dédicace, je l'ai finie.
Vous l'avez terminée. Vous l'avez terminée par une dédicace.
Je ne sais pas ça, si on doit le dire ou pas, mais ça se termine, oui.
C'est une question que je vous pose.
Oui, à la fin... Elle trouve, l'héroïne trouve sa dédicace.
Mmh. Ça fait quoi d'écrire l'histoire d'une fille qui ne dit pas son prénom ?
Pour moi, ça a été un plaisir de l'écrire parce que c'est l'une des choses que je partage avec mon héroïne, donc je ne partage pas tout. Mais j'entends jamais mon prénom. J'entends jamais mon prénom.
C'est-à-dire que vous n'entendez personne ne vous prénommer Leïla ?
Non, parce que même si on est en lien avec des gens, des amis, de la famille, finalement, on est dans un quotidien et les gens ne prononcent plus votre prénom. Enfin, je veux dire, quand je reçois des messages, mon prénom n'est pas dans le message. Mes parents vont avoir soit des surnoms. Moi, je sais que mon père, quand il dit mon prénom, c'est quand je suis à l'étage et qu'il m'appelle parce qu'il a un problème avec son téléphone. Alors oui. Là, quand j'entends Leïla, c'est qu'il
on
a un problème avec
quelqu'un. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
On sait qu'il a besoin d'aide.
Et
pourtant, on ressent tous un certain trouble quand quelqu'un dit son prénom. Surtout quand c'est l'être aimé. Donc, c'est quelque chose que je partage avec mon héroïne. J'adore mon prénom et je l'entends jamais.
C'est très vrai ce que vous dites.
Écoutez, merci.
Parce que souvent, les gens, soit vous donnent des surnoms, même les gens que vous aimez bien, et très peu de gens vous appellent en fait dans la vraie vie par votre prénom.
Mais oui, clairement. Moi, je suis surtout une interjection. Enfin, je sais que je suis très proche de mes frères et sœurs, mais on dit rarement le prénom les uns des autres. On va être plus des interjections que des prénoms.
Et quel rapport elle a avec les prénoms ? Parce qu'elle, il y a des prénoms qui vont plus ou moins bien aux gens.
Ouais.
On sait comment elle ne s'appelle pas, au fond, mais on ne sait pas comment elle s'appelle.
Oui, exactement. La recherche de la dédicace, finalement, elle cherche un prénom, mais derrière ce prénom, c'est tout autre chose. C'est un lien qu'elle recherche. Donc le prénom, c'est vraiment la dédicace, un prétexte pour elle de s'interroger sur les relations qu'elle a avec ses proches, mais aussi avec des inconnus. Comment elle se positionne pour créer une nouvelle relation et comment elle agit quand les gens viennent vers elle. Donc ce livre, c'est la recherche d'un prénom, finalement. Elle qui n'est jamais nommée.
Alors, dans quel sens vous prenez le mot dédicace, d'ailleurs ? Parce qu'on pourrait en avoir deux, au moins.
Oui, c'est clair. Mais surtout que quand on est publié, on est amené à faire dédicace, mais qui n'est pas celle du roman.
Dédicace, c'est le mot qu'on va mettre aux gens qui vont venir acheter votre livre et qui vont aller, par exemple, venir à une signature.
C'est ça.
Ou mais quand vous envoyez votre livre à des gens, vous mettez une dédicace.
Exactement.
Mais c'est pas ça.
Non, là, la dédicace, c'est finalement les premiers mots d'un roman. C'est ce qu'il y a en première page. C'est à qui on dédie toutes ces heures de travail, toute cette énergie. Et finalement, y a une phrase dans le livre qui dit que dans une dédicace, c'est tout un monde, mais finalement, il y a une personne. Donc voilà, c'est cette dédicace, celle qu'on trouve en première page et à qui on dédie tout notre travail.
Ouais. Alors, on y fait plus ou moins attention, d'ailleurs, à ces dédicaces. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne les remarque même pas.
Oui, c'est vrai.
Sauf si on est concerné, au final.
Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire que c'est très important... tous les romans quasiment sont dédicacés parce que j'ai fait le test. Je suis vraiment allée dans une librairie feuilleter les premières pages et c'est vrai que tous les romans sont quasiment dédicacés. Alors, surtout les premiers, parce qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu salvateur. Mmh. J'offre ça à la personne qui n'a d'ailleurs
à
rien
à ma mère
demandé.
Qui m'a porté, à mon éditeur qui m'a publié.
C'est ça, c'est ça. Et finalement, ces prénoms résonnent et n'ont de sens que pour la personne qui a écrit. Et tout le reste du monde s'en fout totalement. Enfin, mais c'est ce paradoxe que j'ai.
Alors après, il y a des dédicaces célèbres, mais ça, c'était avant.
Oui, bah, c'était
ou intéressé.
Oui, voilà, c'était plus romantique avant. Maintenant, c'est rare une dédicace qui fait mouche, qui fait rire. Enfin, on la lit même pas, finalement, on s'en fiche à mes enfants. Tant que c'est pas les vôtres, les gens s'en foutent. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
À mon fils, à ma femme.
Oui, c'est ça. Mais c'est souvent les dédicaces.
Que j'aime tellement.
C'est
ouais,
ça.
Je me suis amusé à les regarder, du coup, après. J'ai pris ma pile de livres et j'ai regardé. Et 99% des livres sont dédicacés.
Exactement.
Quand même. Toujours aujourd'hui. Hein.
Ah oui, oui.
C'est pas très original d'ailleurs.
Ah non, jamais. Alors il n'y a rien de moins original qu'une dédicace.
Ouais, c'est pas très original, oui. Bon, ça dit pas grand chose.
Non, ça dit pas grand chose. Mais c'est tellement important pour l'auteur que finalement.
J'ai appris quelque chose. Alors, j'ai appris plein de choses dans votre livre. Mais ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Mm. Qu'est-ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov?
Le fusil de Tchekhov, c'est des petits indices que l'auteur va mettre, va parsemer son roman. Mmh. Et à la fin, ces petits indices que le lecteur, enfin, le lit, ça ne lui parle pas. Et à la fin, tout fait sens. Parce que ces petits indices avaient finalement énormément d'importance pour la recherche de l'histoire.
Ouais, c'est une technique littéraire. Ça s'appelle aussi la loi de conservation des détails.
C'est ça. Ah ben ça, je l'ignorais.
Voilà, la loi de conservation des détails. Voilà, ça veut dire que finalement, tout sert à quelque chose. À la fin, on comprend pourquoi.
Mmh, c'est ça.
Mais c'est aussi parce qu'il n'y a que du muscle dans votre livre. Il n'y a pas de gras, finalement.
Oui.
Tout sert à quelque chose.
Oui, on comprend à la fin. Je pense à la dernière page que tout vraiment se met en place. Et on comprend beaucoup de choses, notamment sur la personnalité de l'héroïne qui peut paraître un petit peu antipathique de prime abord et qui finalement ne l'est pas du tout.
Mmh. Il faut se méfier d'ailleurs des a priori.
C'est ça.
Il y a un personnage important dans votre livre, c'est Paris.
Exactement.
Et alors, quelle image a-t-elle de Paris? Moi, je me dis, elle a une image très sombre de cette ville que tout le monde vient voir dans le monde entier tellement c'est un décor de rêve.
Ouais, exactement. Bah, vous le dites très bien, Paris. Enfin, je dis rien de nouveau dans mon roman. C'est une ville qui a vraiment deux facettes. D'un côté, vous avez la ville lumière, la ville qui vous saisit par sa beauté, la ville qui donne envie de tomber amoureux, d'être romantique. Et puis aussi un Paris beaucoup plus sombre, un Paris où tous les bâtiments ne sont pas haussmanniens, un Paris où certaines rues sentent très fort l'urine, un Paris où tous les hivers des personnes meurent de froid, un Paris où vous pouvez pas prendre le métro sans que des gens vous disent qu'ils ont faim et vous réclament votre aide. Donc il y a un Paris beaucoup plus sombre. Un Paris où les gens ne viennent pas se prendre en selfie devant les monuments. Et moi, ça m'intéressait parce que c'était un cadre qui allait bien avec la personnalité de mon héroïne qui est finalement souvent déçue. Et donc c'est un Paris qui est aussi décevant, en fait.
Mmh. Est-ce que vous voulez qu'on parle de sa personnalité?
Oh bah écoutez, allez-y.
Ouais. Comment est-ce que vous l'avez justement dépeinte? On a l'impression que c'est une fille qui trouve que déjà la vie n'est pas simple en soi, qui trouve la vie compliquée.
C'est vrai.
Elle a énormément le sens du détail.
Oui, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au détail, mais surtout qui attend que chaque moment de la vie, chaque relation qu'elle va avoir soit extrêmement intense et extrêmement forte. Donc forcément, elle est forcément déçue parce que le quotidien s'est fait de, certes, de grandes conversations, mais aussi de petits bavardages sans grand intérêt, finalement. Et elle voudrait que chaque relation, chaque conversation soit éblouissante. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, elle accorde beaucoup d'importance aux détails, et peut-être trop, sûrement trop, d'ailleurs.
Oui, beaucoup de détails. Et puis, en général, c'est beaucoup de détails négatifs chez les gens.
Ah oui, vous trouvez?
Ah ouais.
Oui, bah...
C'est un scanner qu'elle a.
Oui, c'est ça.
Elle voit beaucoup ce qui ne va pas, quand même.
Oui, c'est vrai.
C'est le détail qui tue.
Le détail qui tue, c'est vrai. Mais pourtant, moi, je la trouve plutôt optimiste, parce que c'est vrai qu'elle a ce côté de voir toujours le côté sombre de Paris, des gens qui l'entourent. Mm. Mais finalement, l'histoire, c'est quoi? Une femme qui est dans l'attente d'une révélation, mais elle n'est pas dans une attente passive, elle est dans l'action. Donc malgré ses déceptions, sa morosité et son cynisme, elle y va quand même.
Alors, votre narratrice, bientôt 30 ans, dont le premier roman va partir à l'imprimerie d'ici quelques jours, va rencontrer son éditrice et son éditrice lui donne 3 jours pour trouver une dédicace. Et 72 heures pendant lesquelles cette héroïne va partir à la recherche d'un nom à qui dédicacer son livre, c'est-à-dire quelqu'un qu'elle aimera suffisamment, finalement.
Mmh, exactement.
Et la première chose qu'elle dit... j'ai pas le dédicacé à ma mère parce que je l'aime pas assez. Ça, c'est quand même violent.
Alors oui, c'est très très violent. Donc en effet, quand l'éditrice lui pose la question, sa question la plonge dans un profond désarroi parce qu'elle se rend compte immédiatement qu'elle va avoir plus de difficultés à écrire sa dédicace que son roman, donc ce qui peut paraître extrêmement paradoxal. Mmh. Et d'ailleurs, la mère est le premier personnage suite à cette question avec qui elle est confrontée dans le roman. Et en fait, elle a un lien avec sa mère qui est très particulier parce que ce lien qui est tellement sacralisé, tellement idéalisé, enfin, s'il y a bien un lien au monde où on n'imagine pas qu'il puisse être fade, c'est le lien mère-enfant et d'autant plus le lien mère-fille. Et pourtant, elle, le lien qu'elle a avec sa mère, c'est pire que si elle la détestait, c'est simplement qu'elles sont totalement étrangères l'une à l'autre, totalement indifférentes, elles n'arrivent pas du tout à s'atteindre. Et en fait, c'est pas qu'elle déteste sa mère, c'est qu'en effet, elle ne l'aime pas assez. Et quand on, à travers la scène où elle se rencontre dans le roman, on comprend pourquoi finalement. Mmh. Pourquoi elle n'arrive pas à s'atteindre et pourquoi sa mère ne peut pas être la dédicace.
Ou ne mérite pas finalement qu'on lui dédicace.
Mais il y a un peu des deux, parce que de toute façon dans le roman elle le dit, elle n'a rien à lui reprocher, il n'y a pas de rancune passée. Voilà, dans son enfance elle a toujours eu trop de purée dans son assiette, elle n'a jamais été privée de dessert. Donc elle a toujours vécu une adolescence totalement normale, hein. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tragédie derrière ça. Mais la question c'est, elle se la pose, est-ce que ça suffit finalement? Est-ce que quelqu'un qui vous met au monde et qui, voilà, dans les premières années de notre vie, on est totalement dépendant de nos parents, mais on ne va pas les remercier, hein. C'est quand même eux qui nous ont emmenés ici. Est-ce que ça suffit? Et bah, pour la narratrice, non, ça ne suffit pas.
Mais est-ce que c'est politiquement correct de le dire? Et de l'écrire finalement?
Ah non, bah oui, non, parce que j'ai eu plutôt des retours positifs sur mon roman, mais c'est vrai que les quelques remarques négatives venaient surtout de mères de famille qui me trouvaient très très injuste, d'ailleurs qui ne faisaient pas du tout la différence entre la narratrice et moi.
Et vous dans la vie. Ouais.
Bon, c'est vrai que ma mère est très intelligente, donc elle a lu le roman, elle a su très bien qu'elle n'était pas concernée. Mais elle m'oblige quand même à dire à chaque fois que j'ai une interview qu'elle n'est pas la mère du roman. Donc maman, tiens, c'est pour toi. Mais oui, non, c'est pas politiquement correct de dire ça, clairement. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas dire, c'est que on n'aime pas ses parents. Et pourtant,
ça peut peut-être arriver.
Je pense que ça arrive et que c'est même plus la norme que l'exception. Il y a qu'à voir à l'approche des fêtes de famille, tous les gens qui vont en décembre à reculons chez les leurs. On a l'impression que s'asseoir à la même table que ses géniteurs, ça devient un supplice. Et puis s'ils peuvent rester un week-end plutôt que 10 jours, ils sont très contents. Donc voilà. Une fois en âge adulte, on a nos propres ambitions, on a nos propres projets, on a nos propres rêves. On est face à nos géniteurs qui ont leurs propres ambitions ou pas d'ailleurs. Et on est deux adultes et parfois on a de l'affection, mais est-ce qu'on aime vraiment ses parents? Enfin, ça, c'est une question intéressante.
Elle a pas de père?
Elle a un père, mais je le trouvais pas dispensable à mon roman.
D'accord, c'est comme le prénom, vous savez.
C'est ça. Mais en fait, je suis toujours plus inspirée par les femmes, donc. Non, là, le père, non. Il n'y a rien, parce qu'elle n'est pas du tout virulente vis-à-vis de son père.
Non, au contraire,
elle a même plus d'affection pour son père que sa mère. Mais c'est juste que sa mère est plus présente et le père...
Voilà, et non, le père est...
Il n'existe pas, on sait pas. On sait juste qu'il est parti avec une blonde il y a très très longtemps, et c'est tout.
Pourquoi est-ce que les femmes vous inspirent plus? Les personnages de femmes sont plus inspirants pour vous?
Parce qu'elles sont plus complexes, tout simplement. Je trouve qu'elles doivent évoluer dans une société avec tellement d'injonctions contraires, notamment les mères de famille. Elles doivent travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants, mais elles doivent élever leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Donc forcément, on est face à des femmes qui sont beaucoup plus complexes. Et j'admire toujours plus les femmes que les hommes. Et du coup, je pense que ça se ressent, parce que mon roman, dans les retours que j'ai eus, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais c'est aussi une histoire de femmes.
C'est une histoire de femmes, mais qui sont fortes comme des hommes.
Ah oui, bien plus même. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est des femmes très fortes, très complexes, très paradoxales, qui ne sont jamais ce qu'elles paraissent
être. Même quand elles font l'amour. Hein.
Oui. Mais ce passage, il est marrant parce que...
Ah ça dépend de quel point de vue on se place.
Ah oui, du point de vue des femmes, c'est drôle, je trouve. Parce que c'est vrai que les hommes sont toujours dans cette attitude... Voilà... Ouais. Et elle, c'est elle qui prend le...
On est dans les grands classiques, on est dans les schémas.
Voilà, exactement. Et là, elle prend le contre-pied de la chose pour justement entendre son prénom.
Elle n'est pas dans les schémas.
Non, elle n'est pas trop dans les schémas. Mais c'est ce que j'aime chez elle.
Je crois que tu commences à comprendre un petit peu.
Ah oui ? Ah écoutez, c'est bien si vous avez...
Leïla Bouerafa est avec nous. Vous venez parler de votre premier roman. Ça s'appelle La dédicace aux éditions Alary.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est un des très bons premiers romans de cette rentrée de janvier. Alors le livre s'appelle La Dédicace, l'invité s'appelle Leïla Bouerafa et vous êtes édité aux éditions Alary. Un premier roman très abouti. Est-ce que ça veut dire que vous en avez écrit beaucoup d'autres avant qui n'ont pas été publiés?
Non, La Dédicace, c'est vraiment la première histoire que je finis. Mais oui, j'ai beaucoup écrit avant, mais je suis quelqu'un qui a du mal à finir ce qu'elle commence. Donc j'ai commencé tout un tas d'histoires qui n'ont jamais eu de fin. Donc,
mais vous en faites quoi de ces histoires? Vous les faites lire à des gens? Vous avez un blog ou...
Non, c'est ma pauvre sœur qui subit tout et qui a lu tout un tas d'histoires que je n'ai jamais finies. Donc, non, La Dédicace, c'est vraiment le premier roman que j'ai fini et que j'ai envoyé.
Mmh. Dans votre livre, puisqu'elle est auteure, elle part au très célèbre salon de Brive, un salon d'écrivains, et elle répond à une interview. Est-ce que vous êtes imaginé qu'un jour vous publieriez un roman et que vous devriez subir, ou pas, en tout cas passer des interviews et avoir à répondre à certaines questions?
Honnêtement, absolument jamais. Même vers la fin de l'écriture, ou vers la fin on commence à penser à la publication, certes, mais... Enfin, je savais les chiffres, en quelque sorte. Je sais que c'est très compliqué d'être publié. Je sais que les maisons d'édition, même les plus petites, reçoivent énormément de manuscrits. Donc honnêtement, je l'ai fait juste dans un geste salvateur de me dire, voilà, j'ai travaillé tellement longtemps pour ce roman, je vais envoyer mon petit courrier, mettre mon petit timbre et je vais l'envoyer. Et voilà, après c'est fini. Donc à aucun moment je me suis projetée dans ce qu'on est en train de vivre, en fait, vous qui me posez des questions.
En tout cas, ça arrive à votre
héroïne. Ça arrive
à mon héroïne,
oui, oui.
Voilà, avec des questions, c'est difficile d'écrire.
Voilà, ce genre de questions que j'avais fantasmées. Ah, vous me la posez vraiment?
Non, parce que c'est... Okay. Non, j'aime bien. Alors, il y en a une que je ne pose jamais. Hein. D'abord, je ne pose jamais, c'est difficile d'écrire. Mais existe-t-il un lien entre l'écriture et la météo?
Oui.
Peut-être, finalement.
Oui, peut-être. Oh, bah, moi, je partage totalement cet avis.
Ouais.
Oui, à Paris, c'est plus simple d'écrire parce qu'il y a quelque chose de... Voilà, avec le temps de très mélancolique, on n'a pas tout le temps envie de sortir. C'est ça, la grisaille.
C'est ça.
Créatrice.
Alors quand il fait beau, peut-être qu'on est moins, on a moins envie d'écrire.
Ouais, peut-être.
Quel est le rapport entre le talent et la station de RER? Ça, vous voyez, c'est une question pointue.
Ah oui, c'est une question pointue. Et j'ai fait réfléchir mon héroïne là-dessus et pas moi finalement. Donc,
donc pour vous, il n'y en a pas.
Je pense que quand on est dans un endroit pas très beau, on a envie de s'en extraire par différents moyens, et l'écriture peut être un de ces moyens. On peut aller énormément au cinéma, mais c'est vrai que quand on évolue dans une ville qui est pas très belle, faut trouver des moyens pour en sortir.
Mais quel est l'intérêt d'aller au cinéma si on voit pas le début du film et qu'on n'en voit pas la fin? Est-ce que vous, ça vous arrive, par exemple, d'aller au cinéma et de voir un bout du film?
Oui, ça m'arrive. Parce que j'ai une carte UGC, donc forcément c'est plus simple. Mais oui, entre deux rendez-vous à Paris, quand j'habitais en banlieue et que vous pouvez pas refaire une heure aller, une heure retour et que vous avez du temps à perdre, c'est assez sympa de rentrer dans une salle de cinéma et de prendre le film en bout et puis de voir. Hein.
On n'est pas sélectif, on est moins sélectif finalement.
Ouais, c'est vrai qu'on est moins sélectif. Ouais.
Et à la question, pourquoi est-ce que vous écrivez aujourd'hui? Est-ce que vous écrivez pour laisser une trace ou parce que vous aimez ça ou... Ou parce que vous avez beaucoup d'imagination
Parce que j'ai lu des choses, j'ai lu énormément, donc j'ai lu des choses absolument incroyables, et j'ai lu des choses aussi très mauvaises. Et j'avais vraiment envie de m'essayer à l'exercice, de me mettre dans la peau de ces génies que j'admire tant, et de voir ce qu'ils ont ressenti quand ils sont devant leur page blanche, etc. Et maintenant je continue parce que j'y prends du plaisir et que j'ai vu la chose aboutie. Et donc oui, je continue.
Mmh. Et qu'est-ce que vous lisez d'incroyable?
Voilà, là, j'ai vu tellement de choses. Alors, tous les romans de Romain Gary, tous les romans de Simone de Beauvoir, de Sylvia Plath, de Virginie Despentes. Voilà, ça, c'est des choses qui sont incroyables. C'est des romans d'une justesse. Vous pouvez les lire, j'ai l'impression, à n'importe quel moment de votre vie. C'est des livres qui, littéralement, peuvent changer votre perception de la vie. Et, pour ceux de Simone de Beauvoir, du moins, qui peuvent vraiment changer le monde. Donc ça, c'est vraiment les livres ultimes. C'est des livres incroyables. C'est des livres tels que je peux pas supporter un avis contraire.
Dans la discussion.
Non, dans la discussion.
Quelqu'un qui vous dirait, par exemple,
il peut pas y avoir
le deuxième
débat sur...
sexe, tu vois, bon, c'est daté.
Ne me provoquez pas.
Vous le relisez aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens.
Voilà, c'est typiquement le genre de phrase que je ne peux pas entendre. Et c'est peut-être ça un chef-d'œuvre, c'est qu'on ne supporte pas un avis contraire au sien.
Oui.
Et c'est des romans.
Je partage pas votre enthousiasme. Et peut-être parce que vous êtes une femme.
Je ne peux pas l'entendre. Mais chacun, on a nos petits. Ouais. Voilà. Nos livres phares où on supporterait pas, enfin on regarderait l'autre d'un œil assez louche s'il nous disait mais c'est quoi ce livre.
Et pourtant, vous pensez qu'un livre, ça peut changer la vie.
Ah oui, enfin pas tous, hein. Il y en a un, je sais pas, peut-être par, oui, par siècle, mais il y a vraiment des livres qui peuvent changer, qui peuvent vous changer vous et qui peuvent changer la vie, oui, clairement.
Mmh. Par exemple, un roman comme La Dédicace, vous l'avez écrit combien de fois? Écrit. Ça coule ou c'est vraiment quelque chose que vous travaillez, retravaillez avec ce sens de la précision où on parlait de muscles tout à l'heure?
En fait, moi, j'écris pas tous les jours. Je suis même assez inégale. C'est-à-dire que je peux écrire de manière très intense pendant 3 semaines et ensuite pas y toucher pendant 3 semaines aussi. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'y pense tous les jours. Tous les jours, même quand j'écris pas, je pense à mon roman. Et en fait, le travail, pour moi, il se fait autant quand je suis devant mon ordinateur et que j'écris, mais il se fait autant quand je marche dans la rue ou que je suis à un dîner ou que je suis avec des amis. Le cerveau, il travaille toujours sur le roman.
Mmh. Il y a deux histoires dans votre histoire. Il y a l'histoire de... Elle doit chercher une dédicace à mettre dans son livre, et puis elle doit chercher une femme aussi.
Ouais. Mais en fait, elle est persuadée que... elle va avoir une révélation. Alors ça, elle le dit, elle a dit, j'attends une révélation et à partir de ce moment-là, je pourrais être heureuse et écrire. D'ailleurs, elle fait le parallèle entre écrire sa dédicace et être heureuse, subitement. Subitement, oui. une fois qu'elle aura trouvé sa dédicace, elle sera heureuse. Bon, c'est... Donc, elle attend cette révélation. Elle ne sait pas vraiment quelle forme elle va prendre, mais par contre, elle est absolument persuadée que ça va prendre la forme d'une autre personne. Enfin, c'est une autre personne qui va lui apporter cette révélation. Et on voit bien qu'elle la cherche plutôt chez les femmes. Elle essaye un moment avec un homme, mais avant même de se lancer dedans, elle sait que la révélation peut pas venir de lui. Donc c'est une conviction très intime. Elle sait que la révélation viendra d'une femme, donc elle cherche autour d'elle la femme qui pourra le lui apporter.
Elle commence à faire à l'ancienne, hein. Elle prend son portable, elle regarde les noms qu'il y a dans le portable.
Ouais, mais son portable qui ne vibre jamais d'ailleurs. Et non, elle est pas non pas trop, elle est pas trop connectée à son portable, mais elle réfléchit vraiment, elle se pose la question dans cette ville barbare, est-ce qu'il y a des gens que j'aime? Et j'aimais bien aussi cette idée d'une femme qui, au lieu d'être aimée, cherche plutôt à aimer quelqu'un, parce que souvent dans la littérature, dans les films, on a toujours une femme qui est en quête désespérément de l'amour, mais être aimée, alors que là c'est vraiment le contraire, elle cherche quelqu'un à aimer et pas forcément dans le sens amoureux. Non.
Mmh. Que vient faire Michel Sardou dans votre roman?
Ah bah le pauvre. Ben, je sais pas, il faut le lire pour le savoir.
Ouais. C'est une référence qui finalement.
Qui colle avec le personnage. Le personnage qui en parle, qui écrit sur Michel Sardou.
Bon, je voulais passer Luna qui chantait Sardou parce que finalement je me disais que c'était plus. Et puis non, finalement Sardou c'est quelqu'un qu'on écoute moins, en tout cas moins à la radio. Il y a des chansons de Sardou que vous aimez?
Non, pas vraiment. Plutôt Pascal Obispo d'ailleurs, vous vouliez pas la passer tout à l'heure.
Non, mais je voulais commencer. On passera Pascal Obispo tout à l'heure, mais je voulais commencer par Michel.
J'adorerais ça. Non, Michel Sardou, j'écoute pas trop, mais il y a un côté. C'est pas ma génération, et puis c'est pas du tout mon truc.
C'est pas du tout votre truc.
Non, pas du tout. Mais c'est celui de ma grand-mère, par exemple. Enfin voilà, c'est un chanteur d'un autre âge. On sait qu'il est emblématique, mais
d'une forme de variété française de qualité.
Ouais, voilà, il est emblématique, mais je crois que je pourrais pas vous citer une seule chanson. Ah si, Les Lacs du Connemara, c'est lui, c'est ça.
Mais en fait, la chanson, paradoxalement, aujourd'hui, la chanson qui vient à tout le monde de Michel Sardou, c'est Les Lacs du Connemara.
Ah, c'est ça, c'est la seule qui me vient à
l'esprit. Mais qui date de la fin des années 80, donc finalement, il avait fait tellement de tubes avant.
C'est ça. Mais c'est presque triste de savoir qu'une personne qui a fait tellement de choses dans sa vie, et qui a eu un tel succès et qui a eu des
succès populaires énormes. Il avait des chansons qui vendaient 1 million, qui restaient des semaines en tête.
Ah ouais, c'est ça. Puis l'emblématique, hein, quand vous pensez aux chanteurs français, c'est un nom qui peut vous venir rapidement à l'esprit. Mais pour la jeune trentenaire que je suis,
non.
De cette personne, finalement, je ne connais rien. Et voilà, la seule chanson que je peux vous sortir, là, c'est Les Lacs du Connemara.
Qu'on passe maintenant dans les fins de soirée, c'est ça? C'est-à-dire qu'en,
ouais, en fait, oui, exactement. Voilà, c'est de là que je la connais, d'ailleurs.
C'est la chanson qui finit une soirée aujourd'hui.
C'est ça. De générations bien différentes du chanteur, et pourtant, ça fonctionne.
Bon, on l'écoute pas souvent sur Beurre FM, mais on l'écoute aujourd'hui parce qu'il est dans votre roman et qu'il est cité plusieurs fois, c'est Michel Sardou.
À faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des les enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser les saints et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Jusqu'à la folie, je vais t'aimer d'amour. Va faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel. À se croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer.
Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec un premier roman aujourd'hui que le Book Club vous propose de lire, s'appelle La Dédicace de Leïla Bouerafa aux éditions Alary. Le prologue de votre livre, pas très optimiste hein, d'ailleurs. On le retrouve. Je suis toujours triste le samedi soir car il me semble que le monde ne me laisse que deux options. La fête ou le suicide. Feindre ou mourir, et comme les effets des deux sont sensiblement identiques, je préfère allumer une cigarette.
C'est vrai. J'avais pas du tout envie de duper le lecteur. Je voulais que dès les premières lignes, il soit vraiment immergé dans une atmosphère un peu sombre. Mais le reste du roman est quand même plus optimiste que le prologue.
Ouais, même si elle n'est pas de naturel très optimiste. Hein, comme,
Non, mais elle essaye. Elle est cynique, mais au fond, elle attend cette révélation. Ce n'est pas quelqu'un qui se morfond. Elle n'est pas dépressive, elle n'est pas abattue, elle n'est pas au fond du trou, pas du tout. Elle est juste un petit peu négative, déçue. Mais elle essaye. Elle va vers les gens, elle va vers les autres, elle va vers des inconnus.
Elle est sans filtre.
Oui, elle est sans filtre. Mais,
elle est sans filtre dans ce sens qu'elle dit tout ce qu'elle pense, finalement.
Ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle est très seule aussi. Parce que, voilà, on la voit dans sa relation avec l'une de ses amies, qui, elle, en fait, c'est des personnages qui cherchent tous à combler leur solitude avec des stratégies très différentes. Et elle a une amie qui, elle, le dit clairement, qui commence à penser aux enfants, mais pas par une envie, vraiment, mais vraiment pour combler un peu la solitude et sa déception avec les hommes. Et elles ont une conversation assez directe où...
Là, elle lui dit, elle lui avoue que finalement, les enfants, elle n'en veut pas non plus.
Oui, voilà. Et que on sent une déception un peu commune. Que... Ouais, non, c'est... Elle dit ce qu'elle pense, oui, en effet.
Qu'est-ce que c'est qu'une bonne intrigue pour vous, pour le... la jeune auteure que vous êtes?
Une bonne intrigue, alors c'est quelque chose, il n'y a pas de remède, mais il n'y a pas de remède, c'est vraiment, on ne sait pas ce qui peut, enfin je ne sais pas, c'est difficile de répondre à ça. Un premier roman, pareil, on ne sait pas ce qui va faire le succès d'un premier roman ou un échec, enfin on ne sait pas, il y a aussi une question de timing, et le lecteur ça peut être aussi le moment où il va lire ce bouquin, enfin par exemple le mien, je sais qu'il y a des gens qui l'ont lu à Noël et qui m'ont dit que ça allait pas avec l'atmosphère de Noël. Bah oui, certes, mais certes, mais est-ce qu'on attend d'un... Enfin, j'écris pas un roman pour qu'il se lue spécifiquement à Noël, donc ça dépend de son état d'esprit et il y a pas de bonne intrigue en fait. C'est...
Mais c'est un thriller parce que finalement, c'est.
Ah, vous pensez?
Ah. Bah oui, elle a 72 heures pour trouver une dédicace.
Oui, bah dans le roman, il y a une journaliste qui lui demande justement qu'est-ce que c'est une bonne intrigue et elle, ce qu'elle répond, c'est ça, que c'est.
C'est pour ça que je dis qu'est-ce que c'est pour vous une bonne intrigue finalement. Est-ce que c'est une fin qu'on n'attend pas? Est-ce que. Vous voyez?
Non, c'est un roman qui. Pour moi, une bonne intrigue. Donc je dis pas que dans le mien, il y a une bonne intrigue, mais par exemple, je sais que. Moi, j'adore Virginie Despentes et dans tous ses romans. Il y a quelque chose qui vous blesse, mais qui vous guérit aussi. Enfin, c'est quelque chose de brutal. Moi, j'aime bien la brutalité dans l'écriture. J'aime bien la brutalité. Donc,
en tout cas, ça ressemble.
Tendance à vous dire personnellement qu'une bonne intrigue, c'est quelque chose d'assez brutal, qui vous laisse pas de marbre et qui vous laisse pas indifférent. Mais après, il est pas forcément obligé qu'il se passe, plein de choses non plus. Enfin, il y a des romans de Simone de Beauvoir où elle parle du quotidien et pour moi c'est une bonne intrigue, mais il n'y a pas d'éléments fulgurants. Enfin.
Elle, son quotidien, par exemple, c'est que la nuit ça va pas.
Ah oui, oui. Bah, elle est hypochondriaque que la nuit d'ailleurs.
C'est ça.
C'est la nuit, l'angoisse profondément et elle est victime d'insomnie. Enfin voilà, la nuit, elle réfléchit à plein de choses. Elle sort d'ailleurs. Ce qui est bizarre, enfin, une femme qui sort à minuit pour marcher dans Paris la nuit ou pour aller retrouver sa mère à Argenteuil, c'est assez bizarre. Mais elle, bizarrement, ça l'angoisse autant que ça la réconforte. Elle a quelque chose avec la nuit.
Elle n'a pas peur, finalement. Ouais.
Non, elle n'a pas peur, non. Enfin, elle a peur de la mort, mais elle n'a pas forcément peur. Non, elle n'a pas peur de sortir, mais elle a peur.
Oui, elle est hypochondriaque dans ce sens où elle a peur de mourir, finalement.
Mais que la nuit, c'est très bizarre, elle a peur de mourir la nuit. Mais je pense que c'est quelque chose dont on a tous été saisis parfois la nuit. Vous avez un petit truc et tout d'un coup. Vous avez l'impression que c'est bien plus grave. En fait, la nuit, tout est plus grave. Et elle, ses sentiments, sa déception, tout est plus grave la nuit.
Mmh. À quel moment le titre du livre, parce qu'on parlait du succès d'un premier roman, le succès, par exemple, d'un livre, c'est son titre aussi, parfois. Ça aide beaucoup. Est-ce que vous, dès le départ, vous pensiez que ça allait s'appeler la dédicace ?
Très, très vite. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je ne sais pas s'il y a des écrivains qui écrivent avec une idée très précise en tête. Moi, j'ai commencé vraiment par le personnage de Rosa. C'est ce personnage-là sur lequel j'ai commencé à écrire. Puis au fil de l'histoire, c'est apparu comme une évidence que ça allait s'appeler la dédicace. D'ailleurs, j'étais très contente que l'éditeur ne change pas le titre, parce que j'y tenais.
Ça peut arriver, parfois, des fois.
Ça arrive, mais j'y tenais. Il était très simple. Dans le titre, il y a tout, en fait. Il y a toute l'histoire.
Donc, c'est vrai.
Et puis, j'adorais l'idée que sur un roman, il y ait écrit la dédicace. Enfin, j'aimais cette idée, en fait. Mais quand j'ai commencé à écrire, non, je ne pensais pas forcément tout de suite à cette histoire. Je pensais vraiment au personnage de Rosa. C'est par elle que tout est venu.
Et pourtant, ce n'est pas le personnage principal de votre
livre. Et non, ce n'est pas le personnage principal. Mais ouais.
C'est elle qui amène l'histoire.
C'est elle qui amène l'histoire. Et puis, finalement, c'est assez logique quand on lit la fin, que ce soit elle qui amène l'histoire. Donc, ça sort
de fleurs, tout ça.
c'est pas elle, les fleurs.
Non, mais...
C'est elle qui apporte quelque chose. Elle apporte quelque chose de très important à l'histoire.
Mmh. Et pourquoi une dédicace, ça ne pourrait pas être à tous mes lecteurs? À tous ceux qui me lisent, par exemple.
Parce que
finalement, il faut remercier le lecteur qui à un moment donné, fait l'effort de...
C'est vrai, faut le remercier. Mais non, une dédicace, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, dans une dédicace, il y a vraiment de l'amour. On n'aime pas tous ses lecteurs, non? Par exemple, j'aime pas le lecteur qui m'a dit qu'il aurait pas dû lire mon livre à Noël. Parce que c'était pas l'atmosphère. Donc non, dans une dédicace, il y a vraiment de l'amour. C'est quelque chose de très profond.
Là, vous êtes très proche de votre héroïne. Vous êtes sans filtre.
Non, mais on partage pas tout, mais on partage des choses, oui.
Qu'est-ce que vous direz à ceux qui n'ont pas aimé votre livre, alors?
Ah non, mais je peux entendre qu'on n'aime pas mon livre. Hein, c'est... non, non, je peux vraiment...
Parce que vous avez dit tout à l'heure, dans la discussion, que finalement, c'est difficile de discuter des goûts littéraires, surtout si vous aimez un livre.
Oui, c'est... non, non, c'est vrai. Non, non, mais je peux entendre qu'on on n'aime pas mon livre.
Je m'en sors bien parce que je ne l'ai pas lâché, votre livre.
C'est vrai.
Ah, et chez moi, ça fonctionne. Il fonctionne bien.
Ah, c'est bien. Bon, écoutez, je suis contente de ça. Non, je peux entendre qu'on n'aime pas mon livre, mais... Après, il y a des critiques qui sont plus ou moins fondées. Enfin, le côté, c'est pas un livre à lire à Noël, bah, oui, certes. Bah, je vois pas ce que je peux faire à ça, en fait.
Bah, c'est comme les pulls de Noël. En fait, il y a des choses qu'on fait en fonction des saisons.
Ouais, c'est ça. Puis, j'ai aussi entendu que mon personnage était un peu antipathique et que on a du mal parfois à se mettre à sa place. Bah, ça, par exemple, je trouve ça bizarre parce que moi, j'ai jamais eu besoin de m'identifier à un personnage pour l'aimer. Enfin, c'est très particulier. Moi, je suis pas comme ça, en tout cas. Y a qu'à lire Lolita de Nabokov. On n'a pas besoin d'être dans la peau d'un homme, bah, clairement pédophile, pour trouver que ce roman est un bon roman. Donc, oui, mon personnage peut être un peu antipathique, cynique. Elle aime pas forcément sa mère, mais je trouve qu'elle a quelque chose d'attendrissant. Mais bon, ça, je prêche pour ma
part. On peut aimer la détester.
On peut aimer la détester, bah oui. Il y a tellement de personnages qu'on aime détester.
C'est ça?
Ouais.
Bon, alors on a écouté Michel Sardou dans cette émission. Je ne vais rien vous épargner aujourd'hui. Mais non, mais finalement, vous l'aimez mieux déjà. C'est
oui.
Pascal Obispo.
Ah oui, oui.
Bon, qu'est-ce qui, dans la chanson, n'est pas écrit dans les livres? Comme on dit, c'est pas écrit dans les livres. On va l'écouter, c'est Lucie. Il revient dans un instant.
Ah, je l'adore.
Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça autour. S'écroule autour de vous. Sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras, je sais, c'est pas le remède à tout. Mais faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois. C'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. D'assurer mes sentiments, j'ai en moi, oh, de plus en plus fort, des envies d'encore, tu sais, dont je n'ai plus à cœur, de réparer mes erreurs, de refaire ce qui est plus à faire, revenir en arrière. Lucie, Lucie, t'arrête pas, on ne vit qu'une vie à la fois. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. De tant d'histoires d'amour, j'ai bien assez de courage pour tourner d'autres pages. Sache que le temps nous est compté, faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun regret qu'on le garde en nous-mêmes. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour.
Leïla Bouirafa, ça vous parle, Pascal Obispo ?
Ah ouais, totalement. Je suis trop contente que vous l'ayez passé, vraiment.
Bon. Non, mais c'est parce que ça parle à votre héroïne.
Oui,
aussi.
Ça parle à mon héroïne, mais ça me parle énormément aussi, donc je suis très contente.
Bon. Sans plus.
Ah non, si, bah c'est déjà beaucoup. Hein, vous passez souvent Pascal Obispo sur Beurre FM ? Parce que je serais trop contente d'être à l'origine de ça.
Je vais vous dire une chose, je crois que je suis là depuis 25 ans, je crois que c'est la première fois qu'on le passe.
Bah, vous savez quoi, c'est l'une des plus belles choses que vous m'ayez dites, je suis tellement heureuse de vous avoir fait passer Pascal Obispo.
Voilà, grâce à vous, c'est la première fois et votre premier roman vient de sortir, ça s'appelle La Dédicace, donc vous dédicacerez le deuxième ?
Ah non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Je pense que moi, je ferai jamais de dédicace. Je trouve que c'est très impudique, en fait. Et je pourrais pas. Déjà, personne ne m'a rien demandé. Mais contrairement à mon héroïne, moi, j'aurais des gens à mettre, hein, bien sûr.
Oui.
Mais, je rassure.
On a cité votre mère déjà une fois, donc c'est bon. Si vous voulez la citer une deuxième fois, ça vous...
Non, mais ma mère, elle sait très bien que si je me suis inspirée d'elle, c'est tout simplement pour prendre le pendant inverse. Mais, non, moi, je mettrais pas de dédicace. Mais j'adorerais qu'on me dédicace quelque chose. C'est très bizarre.
Ah, bien. En tout cas, c'est noté. Vous viendrez parler de votre deuxième livre, puisque celui-là est très très bien parti aux éditions Alary. Merci d'avoir été avec nous, Leïla,
ce
matin. Très bon dimanche à tous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.